L'invention du partenaire.
Quand vous allez trouver un psychanalyste, vous rencontrez un partenaire nouveau que vous n'avez pas rencontré dans votre vie et avec lequel vous allez jouer une nouvelle partie. Pour que cette partie ait lieu, il faut que tous les deux, vous et lui, vous soyez là en personne. Mais la partie se joue dans la parole exclusivement. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ajoute à sa vie cette partie à jouer et ce partenaire de parole, cet interlocuteur supplémentaire qui en plus parle si peu ? Il faut l'avouer. On le fait quand on ne s'y retrouve pas avec ses partenaires dans la vie. Bien entendu, ce serait plus simple s'il y avait quelque chose comme l'instinct sexuel. L'instinct sexuel, si ça existait dans l'espèce humaine, eh bien, c'est simple. Il n'y aurait pas la psychanalyse. Parce qu'on n'aurait pas à se poser de questions. Parce qu'il y aurait une force aveugle, une force muette, qui vous dirigerait et qui vous conduirait vers le partenaire qu'il vous faut. Le partenaire type. Le partenaire standard, celui qui vous correspond. Alors sans doute, ce serait l'idéal. Et c'est d'ailleurs l'idée ou l'idéal qu'on peut se faire de la sexualité chez les animaux. Et il n'est pas besoin d'être psychanalyste pour savoir que ce n'est pas du tout ainsi que les choses se passent dans l'espèce humaine. La sexualité chez l'être humain ne passe pas par l'instinct. L'être humain ne va pas tout droit à son partenaire. Il doit passer par tout un labyrinthe, par des dédales, par un véritable palais des mirages, par des impasses, et sa sexualité est éclatée, problématique, contradictoire, et en fin de compte, on peut le dire, douloureuse. Il n'y a pas l'instinct, il y a des fonctions beaucoup plus compliquées. Il y a le désir, il y a la jouissance, il y a l'amour. Et en plus, tout cela ne s'accorde pas, ne s'harmonise pas, ne converge pas vers le partenaire qui serait le bon, dont on aurait la certitude que c'est le bon. Le désir d'abord. Le désir n'est pas un instinct, parce que l'instinct sait, même si ce savoir reste opaque, l'instinct dit silencieusement toujours la même chose. Il est constant. Le désir, au contraire, ne sait pas. Le désir est toujours lié à une question. Le désir est lui-même une question. Qu'est-ce que je désire vraiment ? Est-ce là mon vrai désir ? Mon désir est-il le bon désir ? Ou est-il mauvais ? Est-il nuisible ? Est-il interdit ? Ce que je crois être mon désir, n'est-ce pas une illusion ? Et cette question sur le désir peut aller jusqu'à la perplexité, peut aller jusqu'à m'immobiliser. Donc le désir ne sait pas. Bien sûr, il y a ce que je demande. Ce que je demande, c'est ce que je crois désirer. Mais est-ce bien ce que je désire vraiment? Et puis, à la différence de l'instinct, le désir n'est pas constant, il n'est pas invariable, il est, si l'on peut dire, intermittent. Il va et il vient, il circule, parfois il se disperse, parfois il se concentre, parfois même il s'annule, il disparaît. Je dis alors que je m'ennuie ou que je déprime. Voilà que je désire très fort quelque chose, quelqu'un. Voilà que je l'obtiens. Et soudain, au moment où il s'offre à ma jouissance, où je n'aurai plus qu'à en jouir, voilà que le désir s'éclipse. Mais si j'en jouis, cela va-t-il mieux? Il peut se faire que chaque fois que je jouis de quelque chose ou de quelqu'un, je le désire moins. Ce dont j'ai joui a moins de valeur et mon désir diminue d'autant. Donc, même si mon désir est intense, cette intensité ne donne aucune garantie permanente, ni à moi, ni à l'autre, car le désir peut se déplacer ou dépérir, ou s'amoindrir avec le temps. Et puis, le désir, ça ne tient pas seulement à moi. L'instinct, si. L'instinct est supposé être inscrit dans ma nature, est supposé fonctionner automatiquement. Mais ce n'est pas le cas du désir. Le désir dépend des circonstances, de la situation, et surtout, il dépend de l'autre à qui il s'adresse. Mon désir est lié au désir de l'autre et de bien des façons. Mon désir peut être l'écho du désir de l'autre. Alors, il faut que l'autre désire pour que je désire à mon tour. Alors, j'épie les signes de son désir pour désirer. Cela peut vouloir dire désirer ce qu'il désire. Me conformer à ce qu'il désire. Mais cela peut vouloir dire aussi que je dois désirer autre chose que ce qu'il désire, pour que mon désir soit bien le mien, à moi, pour que je sois moi-même, pour que je ne disparaisse pas dans son désir à lui. Ce désir de l'autre, qui me sollicite, qui m'incite, qui veut quelque chose de moi, qui me dérange dans ma routine. Je peux aussi le haïr, désirer l'exterminer, détester ses manifestations, effacer ses signes. Et il y a encore une autre façon de trouver dans le désir de l'autre la boussole de mon propre désir. C'est qu'il pose un obstacle, une limite, une loi. C'est qu'il interdise. C'est qu'il dise « ceci ne doit pas être désiré ». Alors, je sais où est le désirable. Je sais alors que ce qui est désirable est ce qui est coupable. Ce à quoi on n'a pas droit, ce qui est interdit. Je pourrais, bien entendu, donner des exemples, mais je ne vais pas en donner. Les exemples, c'est vous qui les donnerez, parce que je pense que chacun peut trouver à se reconnaître dans ce que je dis ici à un moment ou à un autre, par un côté ou par un autre. Et aussi reconnaître ses proches, ses partenaires. Mais oui, dans ces descriptions, même si elles sont allusives, on peut se reconnaître soi et les autres, précisément parce que le désir est un lien, une relation ultra sensible aux signes de l'autre. Parce que le désir passe de l'un à l'autre, se communique, s'inverse. Et c'est aussi le miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'il est trompeur. Mais il y a aussi autre chose que le désir. Il y a la jouissance, et à ce niveau-là, justement, on ne peut pas se reconnaître soi-même. À ce niveau-là, on n'a pas de partenaire humain, que ce soit de l'autre sexe ou du même sexe. Là, il y a une exigence qui est sans relâche, qu'on appelle, enfin, dans les termes de Freud, la pulsion. Une exigence qui ne s'étanche pas comme la soif, qui ne s'assouvit pas comme la faim, une demande impérative, absolue, qui ne se formule pas en mots, mais qui est insatiable, qui en veut toujours plus, qui ne connaît pas de limite ni de temps mort. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de tête, elle est acéphale, elle n'est pas non plus accrochée à la personne de l'autre. Elle ne cherche qu'à s'accomplir, à boucler sa boucle sur elle-même par le moyen de quelque chose qui permette au corps de jouir de lui-même. Ce quelque chose qu'il faut à la pulsion, et sans quoi c'est l'angoisse, Freud l'a reconnu d'abord dans différents morceaux de corps. Mais il s'est aussi aperçu que ce morceau de corps était remplaçable par des leurres, par des semblants. Et ce leurre, qu'est-ce que c'est ? C'est le bout de tissu que le petit enfant réclame pour s'endormir et qui mystérieusement le tranquillise. Mais c'est aussi l'objet artistique le plus élaboré ou l'objet technologique le plus récent, up to date. Et ça, c'est pour chacun un partenaire essentiel, mais il n'est pas humain. Il est inhumain. Ou plutôt ahumain. Et il ne vous conduit pas directement au partenaire sexuel. Il n'est pas du tout le même que le partenaire sexuel. C'est bizarre, sans doute, mais c'est ça la découverte de Freud et qu'on refait dans une psychanalyse. C'est qu'il y a le côté du désir et le côté de la jouissance et que ces deux côtés ne s'emboîtent pas naturellement. Il y a un abîme, une cassure entre les deux. L'érotisme, comme on dit, n'est pas tout d'une pièce. Il est divisé. Heureusement, entre la jouissance et le désir, il y a l'amour. L'amour permet de croire que tout cela tient ensemble. D'un côté, le partenaire sexuel qu'il faut au désir, de l'autre, le partenaire ahumain qu'il faut à la jouissance. L'amour permet de croire que ça ne fait qu'un. Et même, permet de croire que vous ne faites qu'un avec votre partenaire. Et même, il arrive que par l'amour, vous obtenez, vous créez un partenaire surhumain, divin, Dieu lui-même. Seulement, l'amour, c'est aléatoire. L'amour dépend toujours d'une rencontre. Ce n'est jamais écrit à l'avance. La façon dont se combinent le désir, la jouissance et l'amour est très spéciale à chacun et elle dépend du hasard. Nous en avons l'expérience par la psychanalyse. On finit toujours par mettre en évidence que la sexualité, que le rapport au sexe est déterminé pour chacun par une rencontre, par un aléa, un certain hasard. Et justement, parce que ce n'est pas écrit à l'avance, on ne peut pas en donner une formule générale, valable pour tous. Là, sur ce point, concernant le rapport sexuel dans l'espèce humaine, la science doit déclarer forfait. Là, sur ce point, il est impossible de trouver une formule inscrite dans la réalité des choses, dans le réel, une formule à laquelle obéirait le rapport sexuel. On dirait que toutes choses en ce monde savent ce qu'elles ont à faire, les planètes comme les animaux. Pour les unes, il y a la formule de la gravitation, pour les autres, il y a l'instinct, mais que, entre hommes et femmes, le rapport sexuel n'est pas programmé, n'est pas écrit dans un programme à l'avance. Alors, à la place de la formule qui manque, qu'y a-t-il ? Il y a toute une variété, la variété imprévisible de la sexualité humaine. Il y a les rencontres de l'amour, il y a les répétitions du désir, il y a les traumatismes de la jouissance, et ces rencontres, ces répétitions, ces traumatismes sont toujours des surprises. Prévision impossible, pédagogie impuissante, et la prévention. Mais bien sûr, elle ne peut rien. Car le rapport sexuel à l'autre, n'étant pas écrit à l'avance, il s'invente, il y a toujours une part d'invention dans un couple. Sans doute il y a une logique qui est à l'œuvre, mais elle n'est pas universelle. Elle est particulière à chacun et on peut seulement la reconstituer après coup. Qu'est-ce que c'est cette logique ? C'est la façon dont chacun s'arrange avec l'absence de programmation sexuelle, si je puis dire. Et on ne peut s'en arranger que de traviole, qu'avec un certain ratage, c'est-à-dire avec un symptôme. Chaque fois que s'établit pour quelqu'un ce qui semble être un rapport sexuel, c'est toujours un rapport symptomatique, un lien, une union qui en réalité ne répond à aucune norme, à aucune normalité. La norme, la normalité ne sont que des apparences. Ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a de plus réel derrière, c'est un symptôme. Bien entendu, il y a les symptômes dont on peut guérir, cesser de se servir. Mais il y a un symptôme inéliminable, celui dont on ne peut guérir, parce qu'il provient d'une absence dans le réel, de l'absence de modèle, de loi, de rapport sexuel. Ce symptôme inguérissable, qui est présent dans la sexualité en tant que telle, on ne peut pas lui donner, à vrai dire, une solution. Ça reste une énigme. On peut seulement faire avec. Faire une psychanalyse, c'est cerner, dégager, isoler la façon dont vous avez rencontré l'énigme sexuelle. C'est éclaircir la façon dont votre inconscient a interprété cette énigme et c'est trouver une meilleure façon de faire avec.